Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, au Moyen-Orient, la marine iranienne a lancé des tirs, notamment de missiles de croisière, en guise d'avertissement contre des navires militaires américains dans le détroit d'Ormuz, selon la télévision d'État iranienne. Emmanuel Macron a appelé à une réouverture concertée du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis et a appelé à un cessez-le-feu au Liban. Au Liban, les combats continuent. Le Hezbollah fait état de combat avec l'armée israélienne dans le sud du pays. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité. Au Moyen-Orient, la marine iranienne a lancé des tirs, notamment de missiles de croisière, en guise d'avertissement contre des navires militaires américains dans le détroit d'Ormuz, selon la télévision d'État iranienne. Et toujours dans le détroit d'Ormuz, les Émirats arabes unis ont condamné une attaque iranienne de drones sur un pétrolier appartenant à leur compagnie pétrolière nationale, ADNOC, dénonçant un acte de piraterie. Et une explosion suivie d'un incendie a frappé un navire sud-coréen, selon le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Sud, qui ne signale aucune victime à bord. Et des navires militaires américains sont entrés dans le Golfe pour escorter des navires commerciaux, selon l'armée américaine. L'Iran dément l'information. De son côté, Emmanuel Macron a appelé à une réouverture concertée du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis, jugeant la nouvelle opération annoncée par Donald Trump pour débloquer cette voie qui n'était pas claire. Et sur la situation au Liban maintenant, le président français a déclaré qu'il était essentiel que le cessez-le-feu soit respecté après de nouvelles frappes israéliennes qui ont fait un mort dans le sud du pays. Le Hezbollah fait état de combat avec l'armée israélienne dans le sud du pays et le chef du Hezbollah pro-iranien Naïm Qassem a condamné les opérations israéliennes persistantes dans le pays malgré la trêve. Il a rappelé son refus de négociation directe entre Israël et son pays, le Liban. On reste au Moyen-Orient. Le choix des Émirats arabes unis de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, n'est dirigé contre personne, a affirmé le ministre émirati de l'Industrie. En Cisjordanie occupée maintenant, un homme a été tué et 4 autres blessés lors d'affrontements avec l'armée israélienne à Naplouse, selon le ministère palestinien de la Santé. Et l'ONG israélienne Adala, qui a rendu visite en prison ce lundi aux 2 activistes espagnols et brésiliens de la flottille pour Gaza détenus par Israël, dénonce des maltraitances psychologiques et des mauvais traitements auxquels ils seraient soumis. Au Maroc maintenant, 2 soldats américains en exercice militaire international ont disparu samedi soir dans le sud du pays et sont recherchés selon les armées marocaines et américaines qui affirment qu'il s'agit probablement d'un accident. Et enfin, le pape Léon XIV recevra le secrétaire d'État américain Marco Rubio ce jeudi matin au Vatican, selon le Saint-Siège, moins d'un mois après les critiques du président américain Donald Trump contre le pape. C'était votre rendez-vous d'information. Restez avec nous pour les dossiers du jour à suivre. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Premier dossier consacré au Liban, où la situation humanitaire reste très précaire. Dimanche, au sud, Israël a de nouveau appelé à évacuer certaines localités avant de les frapper. Plus largement, c'est plus d'un million de personnes qui ont été déplacées par le conflit et 50 000 bâtiments qui ont été détruits. Dans ce contexte, les ONG s'organisent pour venir en aide aux Libanais. Le président de l'ONG Life, Tarek El Kaoudi, nous explique ce dont la population déplacée a le plus besoin. On l'écoute.
Pour les déplacés qui sont aujourd'hui, les réfugiés qui sont aujourd'hui dans des camps de réfugiés, des gymnases, des écoles qui ont été réquisitionnées, l'aide, c'est d'abord alimentaire. Des kits d'urgence avec kits pour pouvoir dormir, sacs de couchage, etc. C'est l'alimentation, mais c'est également tous les produits essentiels dont un être humain a besoin, c'est-à-dire l'eau. Donc, en perpétuel mouvement tous les jours, et bien nos équipes, en tout cas, leur apporte à la fois nourriture, mais à la fois aussi tout ce qui est assainissement, toilettes, eau, de l'eau pour pouvoir continuer à vivre. Et puis, je vous ai dit, hein, sur le côté alimentaire, on a des colis alimentaires, des repas chauds qui sont distribués tous les soirs, mais également du soutien psychologique pour les adultes, mais aussi du soutien psychologique pour les enfants qui vivent une situation qui n'est pas normale pour un enfant de devoir vivre ce genre de situation de guerre, de partir dans la précipitation, le bruit des bombardements, voire des bombardements, etc. Et il y a un appui psychologique qu'on doit apporter à ces enfants qui est fait dans les centres d'hébergement et également dans les écoles où se trouve retrouve aujourd'hui ces Libanais qui ont fui leur foyer. Et puis en même temps, quand je dis soutien psychologique, c'est soutien psychologique, mais également des activités pour pouvoir, intention un peu, leur redonner un petit peu un retour à une vie normale, même si ce n'est pas une vie normale d'être dans un refuge.
C'était Tarek El Kaoudi, le président de l'ONG LIFE. Dans un second volet, Emmanuel Macron, actuellement en Arménie pour le 8e sommet de la communauté politique européenne, s'est exprimé sur la situation au Moyen-Orient. Il a appelé à une réouverture concertée du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis, jugeant la nouvelle opération annoncée par Donald Trump pour débloquer cette voie, une opération qui n'était pas claire selon ses mots. Il a notamment déclaré qu'il était essentiel que le cessez-le-feu soit respecté au Liban. On l'écoute.
Il y a 10 jours, nous poussions, dès que le cessez-le-feu a été déclaré, pour faire 2 choses. J'avais eu le président Trump et le président Pezeshkian. Le cessez-le-feu devait inclure le Liban et le cessez-le-feu devait permettre la réouverture d'Ormuz. Le vendredi, nous avons tenu cette mission ad hoc qui a rassemblé de nombreux États et gouvernements, une cinquantaine, de tous les continents d'ailleurs, ce qui était une très bonne chose. Le même jour, les États-Unis ont annoncé faire un blocus. Aujourd'hui, je regarde la situation, si les États-Unis veulent réouvrir, sont prêts à réouvrir Ormuz, c'est très bien. C'est ce qu'on demande depuis le début. Et nous, on ne va pas participer à quelque opération de vive force que ce soit dans un cadre, pour ma part, qui ne me semble pas clair. Donc nous avons bâti une mission ad hoc sur laquelle nous travaillons. La planification militaire s'est faite à Londres. Mais nous souhaitons qu'il y ait surtout une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis. C'est la seule solution qui permette durablement de rouvrir le détroit d'Ormuz, de permettre la libre navigation et de le faire sans restriction et sans péage. Et ensuite, je veux ici redire aussi qu'il est essentiel que le cessez-le-feu soit respecté au Liban. Il y a encore eu plusieurs dizaines de morts la nuit dernière. Il est essentiel que le cessez-le-feu soit respecté. C'est l'engagement que les partis ont pris, et je le dis pour la souveraineté, l'indépendance du Liban et la protection des populations civiles.
Et suite au blocage du détroit d'Ormuz et ses conséquences, la hausse du prix du carburant, Emmanuel Macron s'est aussi exprimé sur les profits jugés excessifs et les réponses apportées à l'échelle européenne.
D'abord, il y a un processus de transparence qui est aujourd'hui assuré dans beaucoup de pays. En France, il l'est, avec des enquêtes permanentes sous l'autorité du Premier ministre et des ministres compétents à Bercy. Les Européens suivent ça de très près. Il ne faut surtout pas oublier la cause de tout ça. La cause, c'est qu'aujourd'hui, on a le détroit d'Ormuz qui est fermé depuis des semaines. Donc notre énergie, on doit surtout la mettre à réouvrir le détroit d'Ormuz. Parce que par ce détroit sortent à peu près 20% du pétrole et du gaz mondial, 30% des engrais. Donc notre problème, c'est ça à la base. Ce n'est pas les comportements d'un tel ou un tel. Après, on doit s'assurer que quand les prix montent, ils sont répercutés le plus tard possible. Et que quand les prix baissent, ils sont répercutés le plus vite possible. Pour pas que ce soit nos consommateurs qui, en quelque sorte, soient les principales victimes. C'est là où il faut faire le suivi des marges. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des producteurs ou que ce soit qui sont en train de faire beaucoup d'argent et qui font monter le prix à dessein. Il y a surtout un contexte géopolitique par ce blocus. Et donc la priorité, c'est la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz. Et le suivi, la transparence, s'il y a des profits excessifs ou des comportements si je puis dire, un peu prédateur ou spéculateur. En effet, les différents pays, les Européens, devront y répondre.
Vous venez d'écouter le président français Emmanuel Macron. Dernier dossier direction, la France, ce mardi, doit être débattue la proposition de loi de l'ex-ministre Bruno Retailleau contre l'entrisme islamiste. Ce sera au Sénat. Mais parallèlement, un projet de loi du gouvernement, similaire mais plus vaste, devrait être présenté dans les prochaines semaines. Pour le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, l'initiative de son prédécesseur est inachevée. Il défend, lui, un projet qui ne ciblera pas seulement l'entrisme islamiste, mais toutes les formes de séparatisme et d'entrisme. Vous nous en dites plus, Marc-Aurèle Barrez.
Si l'on s'en tient au site web du Sénat, la proposition de loi déposée par Bruno Retailleau, qui sera débattue ce mardi, vise à créer ou renforcer les instruments juridiques permettant de lutter contre l'islam politique. Concrètement, la proposition de loi prévoit 2 choses. Elle crée un délit qui sanctionne le fait de pousser une organisation, publique ou privée, à enfreindre la loi et et les principes de la République. Deuxièmement, elle introduit un nouveau motif de dissolution des associations. Pourraient être dissoutes les organisations qui utilisent leurs opinions, y compris religieuses, pour ne pas respecter la loi, encore une fois dans des conditions qui porteraient atteinte aux principes républicains.
Et dans le même temps, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, travaille lui aussi sur un projet de loi sur l'entrisme.
Au journal Le Monde, Laurent Nunez a défendu ce dimanche un texte qui se veut différent, je cite, de l'œuvre inachevée de M. Retailleau. S'attaquer à l'entrisme islamiste, oui, mais le ministre veut aller plus loin. Pour lui, il faut aussi cibler toutes les structures séparatistes ou ultra-violentes qui ont pour vocation d'attenter à la République, groupe d'ultra-droite compris. Avec ce projet, le gouvernement veut compléter la loi contre les séparatismes de 2021. Le texte prévoit de nouvelles dispositions, alors pour dissoudre plus facilement certaines organisations. Il prévoit aussi, en outre, d'interdire en France les activités de structures dissoutes qui opèrent depuis l'étranger, comme le collectif contre l'islamophobie en France. Enfin, concernant l'entrisme islamiste, le ministre de l'Intérieur a justifié son initiative. « Moi, je n'ai pas de problème avec un islam en France. Je combats ceux qui l'utilisent sans fondement pour porter atteinte à nos principes républicains. » Fin de citation. La loi est en ce moment examinée par le Conseil d'État et devrait être présentée dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup, Marc-Aurèle Barrès, pour toutes ces précisions. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.